Philippe Bandel, tout et son contraire, l'intégrale.
Aldo Naouri, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 72 ans, vous êtes pédiatre depuis 1966, désormais à la retraite. Vous êtes auteur de best-sellers, dont notamment « Les filles et leur mère », qui était sorti en 98, qui avait été un phénomène d'édition. Vous étiez en tête des ventes. Et votre dernier ouvrage, qui est sorti en 2008, parle d'école et d'éducation. Ça s'appelle « Éduquer ses enfants », avec ce sous-titre « L'urgence d'aujourd'hui ».
Ça a été aussi en tête des ventes.
Pourquoi urgence ? C'est comme le réchauffement climatique, il faut s'en occuper tout de suite.
Absolument, pour une raison simple, c'est qu'il en va de l'avenir de nos sociétés.
C'est-à-dire ?
Littéralement. Les familles sont en train de se défaire. La famille est la première école de socialisation, d'une part. D'autre part, il est fondamental de fabriquer du lien social. Et pour fabriquer du lien social, il faut qu'il y ait éducation. S'il n'y a pas éducation, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, j'ai l'impression que c'est exactement vers ça qu'on va. C'est-à-dire quelque chose qui sera complètement désorganisé et où il n'y aura plus aucune espèce de rapport à l'autorité et à une construction de l'humain. Et ça, ça passe par, nécessairement par l'éducation. C'est-à-dire qu'il est fondamental que l'enfant qui naît avec des pulsions qui le travaillent de façon considérable apprenne très très tôt par l'échange avec ses parents, c'est-à-dire je réprime mes pulsions pour avoir l'amour de mes parents, à réprimer ses pulsions et à devenir un être social.
Tandis que maintenant, on va en parler tout à l'heure, il a l'amour de ses parents, quoi qu'il arrive.
Exactement.
J'ai tout le temps été frappé, moi, par ces mamans qui sont extrêmement fières de leur petite fille ou de leur petit garçon qui fait des bêtises et qu'elles appellent crapules.
Voilà.
Or, il n'y a rien de pire qu'une crapule.
Exactement. C'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en définitive, aujourd'hui, l'objectif des parents, c'est de se faire aimer de leurs enfants. Auquel cas, effectivement, l'enfant devient le tyran qu'on connaît.
Dans l'avant-propos, vous dites une chose, un glissement de sens dont j'ai découvert l'acuité en vous lisant, je ne savais pas ça. Vous dites, nos républiques ont sans doute contribué à semer une certaine confusion en faisant de ce qui avait été baptisé au moment de sa création « ministère de l'instruction publique » un ministère de l'éducation nationale.
Mais ça, je l'ai entendu à quantité de fois dans mon cabinet. C'est-à-dire,
autrefois, l'école servait à instruire les enfants.
Exactement.
Et maintenant, les parents imaginent que ça sert à les éduquer.
Et ils le disent.
Et donc,
ils disent, ah mais ça, c'est de toute façon, il va rentrer à l'école, tout ça va être réglé.
Comme si l'école devait apprendre l'autorité aux enfants.
Exactement.
Et en gros, les parents sont là pour se marrer.
Voilà, exactement. Et pour éventuellement soutenir leur enfant. Parce que si jamais l'institut ou l'éducateur se met à vouloir éduquer, le parent vient là se dresser en disant « mais vous maltraitez mon enfant ».
On a même vu des parents porter plainte.
Tout à fait.
Je résume votre thèse en un mot et même en trois lettres.
Oui.
Le conseil que vous donnez aux parents, c'est « non ». Apprenez à dire non.
Exactement. Apprenez à dire non et faites en sorte de ne pas essayer de vous faire aimer de vos enfants parce qu'ils sont, quoi que vous fassiez, condamnés aussi bien à vous aimer qu'à vous haïr.
Je voudrais que vous me racontiez une histoire que je trouve absolument extraordinaire que j'ai lue. C'est le jour où un petit garçon de 5 ans vient avec ses parents parce qu'il est turbulent. Ses parents vous l'amènent dans votre cabinet et il se met à se jeter sur votre personne. J'aimerais que vous me racontiez cette histoire.
Il a commencé par faire toutes sortes de bêtises et puis il a fini... Il était avec son père qui passait son temps à lui expliquer le pourquoi il ne fallait pas faire de bêtises. Et il a fini par chercher ses limites. Donc il a mis une chaise à côté de mon bureau et puis il est monté sur mon bureau. Et il s'est mis à sauter à pieds joints sur mon bureau. Et le père s'est lancé encore une fois dans une explication. Pour la première fois, mon regard a croisé celui du père et je lui ai dit « mais vous ne pouvez pas tout simplement lui dire non ?» Et il est devenu fou de rage. Et il m'a dit « c'est chez vous qu'on m'envoie ?» Chez un fasciste, vous voulez que je dise non à mon enfant ? Et alors, comme moi j'étais de mauvaise humeur et moi encore pire, je lui ai hurlé à la face et vous lui direz quoi quand il vous dira qu'il veut baiser sa mère ? Vous lui direz qu'il a un tout petit zizi ? Monsieur, lui ai-je expliqué, notre espèce est placée sous la loi de l'interdit de l'inceste et l'interdit de l'inceste est un pur arbitraire. Toutes les fois que vous dites non à votre enfant, vous l'humanisez.
On va parler d'humanité, de oui, de non avec Aldo Naouri sur France Info. À tout à l'heure.
Philippe Bandel, tout et son contraire, l'intégrale.
Aldo Naouri avec nous, pédiatre, auteur d'Éduquer ses enfants, l'urgence d'aujourd'hui chez Odile Jacob et d'autres livres qui vont sortir. Aldo Naouri, vous ne vous êtes pas intéressé qu'à l'école, mais également au rapport au sens large des mamans avec leurs enfants et évidemment des problèmes des rapports d'autorité. Je vais répéter votre thèse, parce qu'elle bastonne comme on dit. Vous dites, élevez vos enfants de façon fasciste, vous en ferez des démocrates. Élevez-les de façon démocratique, vous en ferez des fascistes.
Oui.
Ça va à ce point-là.
Oui, absolument. Dans la mesure, justement, où au moment où l'enfant déploie sa toute-puissance infantile, si on lui cède à tout, il sera absolument convaincu que tout lui est dû. Et comme tout lui sera dû, il ne supportera pas l'autre. Et ça deviendra effectivement un fasciste. Alors que lorsque, justement, on l'élève en lui mettant ses limites de façon très précoce, on lui apprend que l'autre existe. Il deviendra effectivement un démocrate qui pourra nouer du lien social avec les autres.
Vous dites des choses avec lesquelles les parents sont désormais d'accord et d'autres qui sont plus surprenantes. Par exemple, vous dites qu'il faut leur apprendre la frustration. Donc, ne pas les gâter, ne pas faire en sorte qu'ils croulent sous les cadeaux. Mais en même temps, vous dites qu'il faut leur apprendre la faim.
La faim.
Le fait d'avoir faim.
C'est exactement cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la frustration? Il ne faut pas oublier une chose, monsieur, c'est que nous sommes passés d'une société de pénurie dans laquelle, en quelque sorte, le mot d'ordre était « dans la vie, on ne peut pas tout avoir ». Et chacun partit avec ce message, essayer d'avoir le plus possible de ce tout réputé impossible à avoir. C'est dynamogène. Alors que dans notre société d'aujourd'hui, qui est une société, non seulement une société d'abondance, mais une société de consommation, on vous dit non seulement vous pouvez tout avoir, mais vous avez droit à tout. Il n'y a plus d'effort à faire et plus personne ne veut faire d'effort. Alors la frustration, c'est précisément mettre en place quelque chose qui consiste à dire que l'enfant ne peut pas tout avoir.
Tous les parents sont d'accord avec ça et
oui.
Tous les parents savent qu'il
ne
faut pas trop donner.
Oui.
Mais la faim, un petit enfant qui a faim, sa maman, elle lui dit « Tiens, va prendre une madeleine, va prendre une banane, va prendre un goûter. »
Oui, quand je parle de la faim, F-A-I-M, c'est une métaphore, mais ça ne veut pas dire du tout qu'il faille l'affamer. Ça veut dire simplement...
Alors, j'imagine bien.
Ça veut dire simplement que dans le petit âge, il n'est pas question de lui donner à manger toutes les fois qu'il hurle. Pour une raison simple, c'est que ça n'est pas sûr du tout qu'il ait faim. Et que de ce côté-là, à partir du moment où on lui met quelque chose dans la bouche pour réprimer ses cris, c'est exactement comme si on lui disait « on ne t'entend pas ». Et voilà, mange et ça suffit.
On pourrait parler avec vous des heures. Je change de sujet, je passe du coq à l'âne. Vous avez également consacré un livre à l'adultère.
Oui.
Et vous dites de l'adultère ce que Laurent Fabius disait du Front National. C'est une mauvaise réponse et une bonne question.
Oui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'adultère un coupable et une victime, il y a deux victimes. La première, c'est celle qui, d'un seul coup, se trouve dans un retour de son histoire, totalement inopiné, dans une occasion totalement conjoncturelle.
Le mari qui trompe sa femme.
Voilà, par exemple, ou la femme qui trompe son mari. Et l'autre victime, c'est victime du comportement de son partenaire. Or, précisément, qu'est-ce que c'est que l'adultère et pourquoi ? Eh bien, là, encore une fois, nous rejoignons ce qu'il en est de la frustration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est convaincu que l'on a droit à tout, on va essayer de retrouver à l'âge adulte quelque chose qui permettrait de rappeler ce que nous avons connu dans les bras de notre mère comblante. Autrement dit, nous ne saurons jamais nous contenter d'un seul partenaire. En définitive, l'amant comme la maîtresse, ça n'est ni plus ni moins que de retrouver avec maman.
Alors, vous citez une statistique qui m'a fait bondir. Vous dites « les femmes trompent moins que les hommes ». C'est évidemment une contre-vérité puisqu'il faut être deux.
Tout à fait. Je cite la statistique telle que je l'ai lue. J'explique qu'en définitive, il y a là quelque chose qui est véritablement du côté des femmes, rentre encore dans une forme de pudeur. Et là, justement, on n'a pas du tout à établir de relations hiérarchiques.
Vous êtes à la retraite, Aldo Nauri ?
Oui.
C'est dommage, non ? Pourquoi vous ne continuez pas ?
Ben, je continue en l'écriture.
Aldo Nauri continue avec nous sur France Info. À tout à l'heure.
Philippe Bandel, tout et son contraire, l'intégrale.
Aldo Nauri avec nous sur France Info. Vous êtes pédiatre depuis 1966 et auteur de best-sellers dont « Éduquer ses enfants, l'urgence d'aujourd'hui », mais beaucoup encore qui parlent des femmes, du couple, des enfants et même de l'adultère. Beaucoup de choses ont été écrites sur vous, beaucoup de choses ont été dites. Vous parlez beaucoup, vous avez même des ennemis qui parfois parlent à votre place. Vous ne faites pas mystère d'avoir des enfants formidables, dont la romancière Agnès de Sarthe.
Oui.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de Françoise Dolto, dont les livres étaient achetés par des centaines de milliers de parents inquiets pour leurs enfants.
Oui.
Et qui était la maman du chanteur Carlos, qui ne se cachait pas du fait d'être alcoolique, obèse, ça se voyait, et qui a été attaqué en justice pour ses blagues racistes. Je ne reproche pas ça. Je me demande pourquoi cette filiation-là n'était pas indiquée sur la couverture de ses livres.
De Françoise Dolto ?
Oui.
Je ne sais pas. J'ai énormément...
Est-ce qu'elle ne devrait pas le faire ? Vous avez le livre d'Alain Prost, il y a écrit « Alain Prost, quatre fois champion du monde de voiture ».
Oui.
Pourquoi on ne dit pas « Françoise Dolto, pédiatre », c'est elle dont l'enfant est Carlos le chanteur ?
Non, je ne crois pas qu'il faille faire ce genre
Pourquoi
de choses. Pour une raison simple, c'est que si vous voulez, ça engage en définitive la génération suivante. Et la génération suivante n'a pas à tirer bénéfice ou pâtir de la génération précédente. Je veux dire que, évidemment, vous me citez ma fille, je pourrais citer mon fils qui est un immense chanteur d'opéra. Je pourrais citer une autre fille qui est une metteur en scène d'opéra, mais je n'ai absolument pas du tout l'intention de tirer parti de ce que mes enfants ont fait avec leur existence, mais qui est dû à eux-mêmes, quand même, pour une grande partie. Je ne vais pas quand même tirer bénéfice des mérites qu'ils ont.
Je suis absolument d'accord avec vous. Et en même temps, je ne suis pas d'accord, vu que l'objet de votre étude et les enfants,
oui.
Je trouve dans ce cas légitime de dire qui sont ces enfants.
Françoise Dolto est un être extraordinaire, une personne qui a apporté énormément à la psychanalyse d'enfants et à la connaissance de l'enfant, une personne dont le discours était absolument magnifique, mais dont le discours a été littéralement dévoyé. Françoise Dolto passait son temps à dire qu'il est fondamental d'appliquer, comme elle disait selon ses termes, le nom était pour elle quelque chose de sacré. Mes idées ne sont absolument pas du tout éloignée des siennes. Elle a simplement, elle, mis l'accent sur le fait qu'il fallait parler aux enfants. Ceci étant, moi aussi je dis qu'il faut parler aux enfants, sauf que on a cru devoir impérativement tout dire aux enfants, y compris je t'enlève ton bonnet, tu vois, je le mets à côté, etc. etc. On n'a rien compris dans l'histoire.
Je reviens à vous, Aldo Nauri. Est-il vrai que vous avez passé votre enfance dans une cave, sans lumière, avec 9 frères et sœurs, et que c'était merveilleux?
Alors, pas avec 9 frères et sœurs, parce que malheureusement, à l'époque, il y en avait déjà 3 qui étaient décédés. Mais effectivement, j'ai passé ma petite enfance entre 42 et 46 dans une cave sans lumière, avec donc mes 6 frères et sœurs et ma mère. Et je dis, c'était merveilleux. Je garde un souvenir prodigieux de ce temps-là pour une raison simple, c'est que l'essentiel, je l'avais, c'est-à-dire l'amour de l'ensemble de la fratrie et de ma mère, et que nous étions une famille extrêmement unie, et que, par exemple, je vous donne un détail, le soir, tous les soirs, ma mère s'asseyait par terre, et nous étions tous autour d'elle, comme une grappe, chacun ayant accès à un morceau de son corps, et elle nous racontait des histoires pendant 2 heures.
Vous voulez dire qu'on peut être heureux en étant enfant, sans télévision et sans jeux vidéo ?
On peut être heureux sans, non seulement sans télévision et sans jeux vidéo, mais on peut être heureux même éventuellement dans la misère. Et je ne suis pas le seul à le dire.
Est-il vrai, Aldo Nauri, que dans votre cabinet, vous êtes à la retraite maintenant,
oui.
Est-il vrai que vous étiez capable de vous allumer une clope à 30 cm de la table allongée?
Oui, tout à fait.
Pourquoi?
Tout à fait. Je veux dire que j'ai toujours vécu complètement à l'aise en mettant les gens à l'aise. Non seulement j'avais une clope, mais les gens avaient des clopes également. Bon, ceci étant, effectivement, aujourd'hui je ne le ferai pas. Mais j'ai passé mon temps avec mes patients à essayer de démystifier ce qu'il en est de l'enfant en les persuadant que le tout petit est un individu extraordinairement solide.
Merci Aldo Nauri d'être venu nous voir sur France Info.
Merci
à bientôt.
Merci à vous.